Il est 21h à Paris et Rome, 19h en temps universel. Merci d'écouter RFI, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Et à la une, quel avenir pour la Crimée? Question, alors que l'Ukraine revendique sa souveraineté, que Donald Trump assure que la Russie va la garder. Kiev mise donc sur un plan avec les Européens. Près de 250 000 personnes se sont recueillies devant la dépouille du pape François. Le cercueil du souverain pontife doit être scellé avant ses funérailles demain matin. Un moment fort en émotion pour les religieux du Vatican. Dans ce journal, également les négociations qui avancent entre la Corée du Sud et les États-Unis sur les droits de douane. Et puis en ce 25 avril, journée internationale de lutte contre le paludisme, nous verrons où en sont les recherches pour l'éradiquer et les moyens mis en œuvre. La Crimée appartient à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est catégorique et le répète ce soir, alors que son homologue américain Donald Trump a affirmé aujourd'hui que la Russie garderait ce territoire annexé en 2014 et que son émissaire Steve Witkoff s'est une nouvelle fois entretenu aujourd'hui au Kremlin avec Vladimir Poutine en vue de négociations pour mettre fin à la guerre. Mis à l'écart des discussions, Volodymyr Zelensky, lui, compte davantage sur un plan avec les Européens, Vincent Souriot.
Ce texte mis au point à Londres entre l'Ukraine et ses alliés européens fixe une condition stricte. Avant toute chose, il faut conclure un cessez-le-feu piloté par les États-Unis. Sans cette trêve, pas question de négocier une quelconque concession territoriale. Les garanties de sécurité, elles doivent être robustes. Les signataires admettent qu'il n'y a pas de consensus autour d'une possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais ils exigent de pouvoir stationner des troupes sur le sol ukrainien sans aucune restriction afin de garantir l'application d'un futur accord de paix. La répartition des zones de conflit, elle doit, selon les Européens, se baser sur la ligne de front actuelle, avec un élément important. L'Ukraine retrouve le contrôle de la centrale de Zaporijjia en collaboration avec les États-Unis. Et elle obtient un droit de passage sans entrave sur le Dniepr, le fleuve qui traverse le pays du nord au sud. Enfin, ce projet d'accord prévoit la reconstruction totale des zones sinistrées et une compensation financière versée par la Russie pour les pertes essuyées par l'Ukraine. En échange, Moscou obtiendrait une levée progressive des sanctions, mais une levée réversible en cas de violation de l'accord de paix.
Vincent Souriot. Le cercueil du pape François, scellé dans les prochaines minutes avant ses funérailles, prévues demain matin, place Saint-Pierre à Rome, en présence d'une cinquantaine de chefs d'État, d'environ 200 000 fidèles. Avant cela, depuis mercredi, près de 250 000 personnes ont pu lui rendre hommage dans la basilique Saint-Pierre. Emmanuel Macron, le président français, s'est lui aussi recueilli devant sa dépouille ce soir. Une foule qui n'a pas hésité à faire la queue pendant plusieurs heures pour pouvoir saluer une dernière fois à l'image de nombreuses délégations de religieux venues du monde entier, comme l'a constaté Daniel Valo, envoyé spécial de RFI.
Mon nom est Pfarrer Roland Elsner. Ich bin katholisch.
Veste noire, col blanc et sourire affable, le père Roland arrive de Görlitz en Allemagne de l'Est. Ce prêtre catholique voulait à tout prix assister aux funérailles du pape François.
D'abord, on a essayé de réserver un vol, mais tout était complet. Plus un seul billet. Alors on a pris la voiture, on a fait 15 heures de route par l'Autriche, et maintenant on est juste content d'être là et de dire au revoir au pape.
Au revoir zu sagen.
Ils viennent d'Europe, mais aussi d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Des milliers de religieux seront présents ce samedi aux funérailles. Dignitaires de haut rang ou simples nonnes comme sœur Yvonne, une religieuse péruvienne que nous rencontrons aux abords de la basilique Saint-Pierre.
Et la, place Saint-Pierre
est... la place Saint-Pierre est le nombril du monde, le cœur de la chrétienté. Et il y a des gens ici de toutes les cultures, de toutes les langues. On voit qu'avec son message de miséricorde et de pardon, le pape a touché le monde entier.
Seul bémol pour les religieux qui ont vécu il y a 20 ans les funérailles de Jean-Paul II, l'affluence est bien inférieure aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. J'avais attendu 32 heures pour pouvoir entrer dans la basilique Saint-Pierre, se souvient le père Roland. Il ne m'a fallu cette fois que 2 heures pour y parvenir. Daniel Valo, Rome, RFI.
Et à l'occasion des funérailles du pape François, édition spéciale demain matin sur RFI à partir de 8h, temps universel avec Julien Coquel-Rohem. L'armée israélienne appelle les habitants de trois zones de Gazaville à évacuer. Elle va mener, je cite, une attaque puissante alors que ces dernières 24 heures, 78 personnes ont déjà été tuées dans l'enclave palestinienne selon le ministère de la Santé du Hamas. Sur place, la situation humanitaire devient de plus en plus catastrophique. L'aide n'entre plus depuis le 2 mars. annoncé le programme alimentaire mondial dit avoir épuisé tous ses stocks. Il n'y aura aussi bientôt plus de médicaments, selon l'OMS. Notez que la Syrie demande de son côté au Conseil de sécurité de l'ONU de faire pression sur l'État hébreu pour qu'il se retire de la zone tampon située sur le plateau du Golan en vertu de l'accord de désengagement de 1974. La Syrie, où au moins 11 civils alaouites, la minorité dont est issu Bachar al-Assad, chassé du pouvoir le 8 décembre dernier, ont été tués ces dernières 24 heures. Cela s'est passé lors de perquisitions menées par les forces de sécurité syriennes à Homs, dans le centre du pays. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il est 15h05 à Washington. Le Fonds monétaire international appelle l'Union européenne et les États-Unis à calmer les choses et trouver un accord sur les droits de douane nécessaires si les 27 veulent donner un coup de fouet à leur économie, selon le directeur Europe du FMI. Donald Trump est aussi engagé dans un bras de fer avec la Chine, qui a saisi l'Organisation mondiale du commerce. Les discussions sont en revanche bel et bien engagées avec la Corée du Sud, qui souhaite pouvoir échapper aux 25% de taxes annoncées par le président américain. Les explications à Séoul de Célio Fioretti.
Une discussion couronnée de succès, selon Scott Bessent, secrétaire du Trésor américain. Les représentants sud-coréens repartent de Washington avec un début d'accord pour exempter la Corée du Sud de tarifs douaniers d'ici le 8 juillet prochain. Toujours selon Scott Bessent, les Sud-Coréens ont présenté leur meilleur jeu en insistant sur les bénéfices communs du libre-échange entre Washington et Séoul. En échange de cette exemption de droits de douane, la Corée du Sud devrait investir massivement dans les ports américains. C'était déjà l'un des souhaits de Donald Trump dès la campagne présidentielle. En effet, Séoul est le deuxième constructeur naval du monde derrière la Chine et le savoir-faire sud-coréen en la matière pourrait être bénéfique aux États-Unis, dont le secteur naval est à la peine depuis des décennies. Cette première rencontre marque le début d'une série de rencontres à venir entre les représentants américains et sud-coréens pour définir les détails de cet accord pour exempter la Corée du Sud de tarifs douaniers américains. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Aux États-Unis, Luigi Mangione plaide non coupable d'homicide, accusé d'avoir assassiné en décembre à New York le patron du plus gros assureur santé américain. Pour se venger des dérives du secteur, la ministre américaine de la Justice a publiquement demandé au procureur de requérir la peine de mort contre lui. En France, au lendemain d'une attaque au couteau qui a fait un mort et trois blessés dans un lycée de la ville de Nantes, dans l'Ouest, le procureur donne des précisions. L'élève qui est décédé a été victime de 57 coups de couteau. L'auteur de l'attaque, un autre élève hospitalisé depuis hier, est extrêmement solitaire, fasciné par Hitler et, je cite, à l'évidence suicidaire, selon le procureur. Et puis nous sommes le vendredi 25 avril, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme, une maladie qui a touché 263 millions de personnes en 2023, près de 600 000 en sont mortes. Pourtant, si la communauté internationale s'était engagée à l'éradiquer d'ici 2030, force est de constater qu'à 5 ans de l'échéance, nous en sommes encore loin et encore plus depuis que Donald Trump a sabré dans les dépenses de l'aide internationale. Les précisions à Genève de Jérémy Lange.
En 25 ans, les investissements dans la lutte contre le paludisme ont permis d'éviter 2 milliards d'infections et 13 millions de morts, surtout en Afrique. C'est bien, mais pas suffisant, explique Philippe Duneton, c'est le patron d'United, l'organisation chargée de faciliter l'accès au traitement contre le VIH, la tuberculose et donc contre le paludisme.
Il y a une menace majeure, c'est le problème de la résistance. La résistance des moustiques aux insecticides et la résistance du parasite aux médicaments. Dans ces deux cas, il est absolument indispensable d'avoir de l'innovation.
Et l'innovation, il y en a eu ces dernières années. On pense aux nouvelles moustiquaires imprégnées avec deux insecticides au lieu d'un, à un deuxième vaccin antipaludique et même aux recherches pour rendre le sang humain toxique pour les moustiques. Tout ça n'est malheureusement pas possible avec le gel des financements imposé par Donald Trump. Washington a bien annoncé des exemptions pour la lutte contre le paludisme, mais sans vraiment rassurer les acteurs sur le terrain.
Effectivement, ça a déjà entraîné des conséquences, des campagnes de moustiquaires dans tous les pays du Sahel, des risques de pénurie, des retards en tout cas.
Et le temps presse, beaucoup de pays parmi les plus touchés par le paludisme vont entrer dans la saison des pluies. D'après le consortium de chercheurs du Malaria Atlas Project, une année de gel complet des financements américains engendrerait 15 millions de cas de paludisme en plus pour 107 000 décès supplémentaires. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Et il est bientôt 21h10 à Paris, 19h10 en temps universel, tout de suite sur RFI. Ici l'Europe avec Caroline de Camaret.